qui en veut à Nicolas Maduro. Avec notre invité François-Xavier Frelan, nous avons tout à l'heure dessiné le paysage politique du Venezuela dans un contexte économique critique que nous rappelait Nadine Epstein dans le journal. Alors je voudrais qu'on prenne le temps de replacer les événements récents dans un contexte plus large, celui de l'Amérique latine et des relations diplomatiques avec notamment les États-Unis, relations historiquement mouvementées. Nicolas Maduro a d'abord imputé l'attentat à une Colombie à coquiner avec les États-Unis. François-Xavier Frelan, quelle importance les États-Unis donnent-ils aujourd'hui au Venezuela depuis la poignée de main en 2009 entre Barack Obama et Hugo Chavez ?
Alors, Barack Obama, lui, traitait Chavez avec le plus grand mépris, en fait. Et d'ailleurs, ça a souvent
c'était
été...
une fausse poignée de main.
Oui, hypocrite. Parce qu'il savait très bien que derrière, il se ferait insulter, ce qui a été rapidement le cas. Chavez insultait réellement les États-Unis, et plusieurs fois Obama, je me souviens qu'il tapait sur la table. Une fois, il avait dit « Yankee go home » avec un accent latino, qui était assez marrant. Mais voilà, il était quand même dans un discours qui était toujours très anti-gringo, comme ils disent, et très populiste.
Mais avec un contentieux quand même qui datait des années 70 et du coup d'État
Pinochet. Mais pas avec le Venezuela, parce que le Venezuela, effectivement, a toujours été un pays... Autrefois, c'était un peu le jardin privé des États-Unis. Alors, c'est pour ça que Chavez voulait marquer la différence avec, je dirais, les régimes avant lui, ou les dirigeants avant lui, pendant longtemps... pays pétrolier, les États-Unis étaient un peu chez eux au Venezuela. Il ne faut quand même pas le nier.
Donc c'était de bonne guerre alors.
C'était de bonne guerre. D'ailleurs, quand on va à Caracas, malgré l'état de décrépitude de la ville, on y retrouve les structures d'une ville américaine. Les grandes autoroutes, les malls, les tours. Enfin, c'est une ville capitaliste construite réellement à l'américaine. Et d'ailleurs, qui a beaucoup fait rêver. Beaucoup de journaux qui parlaient de Caracas comme la grande ville d'Amérique latine. Et pendant longtemps, Caracas a d'ailleurs été une ville qui a attiré beaucoup d'élites, d'artistes et d'étudiants. On allait faire ses études à l'université principale de Caracas. Donc la relation avec les États-Unis se sont distendues avec Chavez. Ça a perduré, ça continue avec Maduro. C'est aussi pour le régime une manière toujours de se déresponsabiliser, pardon, de ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que dès que l'économie va mal, c'est parce que l'Amérique ou le méchant oncle Sam étrangle l'économie vénézuélienne.
Bah, il faut dire que l'oncle Sam, comme vous dites, a imposé des sanctions financières au Venezuela.
Oui,
bah
enfin,
avec quel impact ?
Oui, quand on les regarde de près, c'est pas non plus, c'est pas ça qui va étouffer l'économie américaine, l'économie vénézuélienne. C'est pas le même cas qu'à Cuba, par exemple, où il y avait vraiment un embargo économique.
Là, ce sont des sanctions financières qui visent à réduire la capacité du régime de Caracas à vendre ses actifs,
voilà.
Notamment la dette vénézuélienne jusqu'en 2025.
C'est-à-dire à réduire sa dette. Trump a décidé qu'on ne pouvait plus racheter la dette du Venezuela par le biais de banques d'investissement, ce qui veut dire qu'effectivement, il leur enlève une bouée d'oxygène, mais il n'étrangle pas pour autant l'économie du Venezuela. C'est la moindre chose qu'il pouvait faire. C'était ça ou quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre ? Sachant qu'il n'est pas d'accord avec l'actuelle gestion du Venezuela et que on a bien vu que les Européens aussi ont pris des sanctions contre la Russie au moment de l'Ukraine, etc., de différentes crises. Bon, c'est pas ça qui a empêché la Russie de se renouveler, d'être aujourd'hui un pays qui ne va pas au... très bien, mais qui est un pays qui survit et plutôt pas mal. On l'a vu d'ailleurs durant toute cette Coupe du Monde. Voilà, donc le Venezuela a toujours tendance, surtout depuis Chavez et Maduro, à faire croire que tout vient de l'extérieur, qu'ils sont victimes d'un nouveau plan Condor. Vous savez, ces plans qui avaient été mis en place à l'époque des années 70 pour mettre en place des dictatures contre des régimes démocratiques et qui avaient fait, en gros, qui avaient permis à des hommes comme Pinochet au Chili d'arriver, de renverser des personnes socialiste ou d'obédience communiste comme Allende.
Voilà, raconté notamment dans le film de Naomi Klein, la stratégie du choc. Mais si les États-Unis ne soignent plus leurs relations avec le Venezuela aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus besoin du pétrole vénézuélien ?
Alors c'est vrai que les États-Unis, on le sait, désormais ont réussi à produire leur propre pétrole, un pétrole de moins bonne qualité, mais ils en produisent notamment en allant vers l'Alaska. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis États-Unis sont moins dépendants des nations de l'OPEP comme ils l'étaient pendant très longtemps. Maintenant, le Venezuela continue de vendre du pétrole aux États-Unis. Il n'y a pas eu coupure de ce côté-là. D'ailleurs, le Venezuela ne peut pas, puisqu'ils sont dépendants de cette production pétrolière, de cette vente de pétrole. Donc, s'ils arrêtaient de le vendre aux États-Unis, là, ils auraient de sérieux problèmes pour subsister.
Alors, quelle est aujourd'hui la nature de la relation entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine? Quand le secrétaire d'État américain, par exemple, appelle de ses voeux, c'était, je crois, en février, un partenariat économique privilégié avec l'Amérique latine en se référant à la doctrine Monroe, cette doctrine de 1823 qui énonçait que les États-Unis s'engageaient à ne pas intervenir dans les affaires intérieures de l'Europe si les Européens cessaient d'intervenir dans leurs affaires à eux en Amérique du Sud. Lui, le secrétaire d'État américain, il a dit que cette doctrine était toujours pertinente en 2017 ou 2018, toujours autant qu'en 1823. Il n'incluait pas le Venezuela alors dedans.
Non, mais je pense que toutes les puissances du monde défendent leurs intérêts. Faut arrêter d'être toujours choqué dès qu'il s'agit des États-Unis. Les Russes défendent leurs intérêts en Europe de l'Est et aussi au Moyen-Orient. Ça choque moins ceux qui critiquent en permanence les Américains de défendre leurs intérêts. La France défend ses intérêts économiques aussi. Alors on peut remettre en question effectivement cette mise en place d'un monde où les puissances règnent sur les petits pays en obtenant ce qu'elles veulent ou par la force ou par du chantage, mais en tous les cas, le monde a toujours fonctionné comme ça depuis l'aube des temps, et les Américains ne sont pas les premiers à faire entendre leur voix. Donc qu'il y ait de leur côté une volonté quand même de ne pas se faire totalement, de ne pas perdre la mainmise qu'ils ont sur l'Amérique latine, c'est sûrement vrai. Maintenant, il est sûr que les États-Unis n'ont pas la domination, non plus cette domination qu'ils avaient dans les années 60-70. Ils ont perdu beaucoup de terrain. D'ailleurs, les États-Unis sont un peu détournés de l'Amérique latine, notamment parce qu'on leur a beaucoup reproché d'avoir eu une mainmise politique et d'avoir mis en place des régimes dictatoriaux. Donc, ils se sont un peu cachés pendant, on va dire, 20 ou 20 ans. Et aujourd'hui, ils reviennent lentement dans certains pays qui, à nouveau, leur tendent la main. C'est le cas de l'Argentine, on le sait, parce qu'il y a eu un changement politique. Et l'actuel président Macri, aujourd'hui, travaille à nouveau avec les États-Unis, alors qu'autrefois, sous les Kirchner, c'était plus compliqué. Le Chili n'a jamais cessé de travailler avec les États-Unis, malgré des gouvernements socialistes ou sociodémocrates. Donc, il y a plutôt une bonne relation aujourd'hui avec l'Amérique, mais quand même des points de tension. Le Bolivie, Cuba restent des pays qui sont problématiques dans cette relation entre les États-Unis et l'Amérique latine.
Alors, il faut arrêter, nous dites-vous, d'être choqué quand les États-Unis défendent leurs intérêts en Amérique latine. Alors, ce qui est choquant, c'est effectivement ce que vous nous avez décrit dans cette première partie de ce qui est en train de se passer au Venezuela en ce moment. Mais il peut être aussi choquant de se dire que, par ailleurs, les États-Unis soutiennent la Colombie, la France y fait des affaires, la Colombie où le nouveau président est d'obédience d'extrême droite, soutenu par des paramilitaires, où des leaders syndicaux, des opposants très locaux qui appartiennent souvent à la minorité indigène et qui se battent notamment pour l'environnement contre la grande braderie que la Colombie organise de ses ressources naturelles. 300 d'entre eux sont morts récemment et a priori dans les villages, on sait à peu près d'où ça vient. Il y a de la corruption à tous les étages. Et voilà, et il y a toujours quand même cette lecture à deux vitesses des relations entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine.
Alors d'abord, vous parliez tout à l'heure de problèmes indigènes pour des raisons de minerais ou de ressources naturelles, il y en a aussi au Venezuela, mais on ne le sait pas.
Braderie, grande braderie de toutes les ressources naturelles, parce qu'il y a du pétrole dessous, c'est ça ?
C'est pas que du pétrole, il y a des minerais qui intéressent le Venezuela et qui aujourd'hui mettent à mal des populations qui vivaient dans des régions reculées et qui aujourd'hui ont leurs rivières souillées. C'est un pays extrêmement pollueur, le Venezuela, et qui aujourd'hui mènent des combats contre cet autoritarisme central de Caracas, mais on n'en entend pas parler parce que c'est un pays censuré. C'est la grande différence avec la Colombie, on pourra dire ce qu'on voudra. Aujourd'hui, en Colombie, on voyage avec un visa de touriste, on se promène dans le pays sans difficulté, on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer le régime. Il y a des partis d'opposition qui vivent tranquillement. Monsieur Petro, qui était pourtant quelqu'un qui défendait Monsieur Chavez et qui s'est présenté aux élections contre Monsieur Duque,
parce que ce serait un peu gros, mais au niveau local, en tout cas, les journaux font souvent état d'assassinats de leaders politiques ou ce qu'on appelle les leaders syndicaux.
Oui, oui,
localement.
Après, tout n'est pas évidemment parfait en Colombie. C'est un pays qui sort à peine de 50 ou 60 ans de guérilla et de lutte terrifiante entre des milices armées par l'État et des guérillas révolutionnaires marxistes. Donc il est clair que il y a eu des choses sales qui se sont passées dans ce pays, et en plus derrière ce trafic de drogue qui est venu un petit peu corrompre le système étatique, on le sait. Mais maintenant, la Colombie est un pays qui est en train d'évoluer, en train de changer. Ils ont signé un accord de paix avec les guérillas, ce qui d'ailleurs n'arrange pas forcément les choses de M. Maduro.
Mais que le nouveau gouvernement colombien pourrait le remettre en cause.
Oui, il va remettre en question certaines choses, parce que ils ont élu un personnage qui est très proche de l'ancien président Uribe, et qui effectivement est un homme à la main dure, plutôt de droite conservatrice. Faut toujours faire attention aux termes qu'on utilise, extrême droite, ouais, etc.
Tout le monde est à droite.
Dans des pays.
Colombie,
alors, par exemple, ça c'est aussi une chose assez drôle de la part de M. Maduro, de parler d'extrême droite au Venezuela. Ça n'existe pas, en fait. L'extrême droite, c'est vraiment quelque chose de très européen. Il n'y a jamais eu d'antisémitisme au Venezuela, il n'y a jamais eu de politique fascisante au Venezuela, et les rares personnes les personnes d'opposition aujourd'hui, pour les trois quarts, sont des gens de centre droit ou centre gauche. Il y a une seule personne qui est libérale, c'est Madame Machado, qui est proche des États-Unis, mais enfin, la taxer d'extrême droite, c'est vraiment risible, en fait. Donc c'est toujours exagéré, caricaturé la politique pour donner l'impression que eux, ils sont de gauche, alors qu'ils ne sont pas de gauche. Et d'ailleurs, l'opposition les traite de néo-fascistes. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est quand même assez drôle de voir que M. Maduro, qui utilise des méthodes qui sont des méthodes proches de celles de certains régimes des années 30, aujourd'hui accuse l'opposition d'extrême droite.
Alors, François-Xavier Frelon, on arrive à la fin de cet entretien. Oui. Et vous travaillez beaucoup aussi en Afrique, et notamment au Mali, où vous vous rendez régulièrement.
Oui. Je me suis rendu là pour les élections présidentielles. Oui.
Et vous faites, mais on n'a pas eu le temps d'en parler plus avant, vous faites un lien entre ce qui se passe aujourd'hui au Mali et ce qui se passe au Venezuela.
Non, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Par exemple, on ne peut pas nier que Laurent Gbagbo avait des points communs avec Hugo Chavez. Il y avait une forme de populisme, un discours très anti-impérialiste, qui a des fondements vis-à-vis de la France, qui ressemblait à celui anti-impérialiste de Chavez contre les États-Unis. Donc c'est plutôt ça que je vois en commun. Il y a des brisures, il y a encore des cicatrices qui sont là. Et effectivement, on ne peut pas non plus nier que tout n'est pas rose, que tout est rose entre les grandes puissances et ces pays, petits pays, qui essayent de se construire et d'avoir parfois des modèles un peu différents que ceux qu'on leur impose. Il ne faut pas le nier. Mais après, c'est souvent une ficelle utilisée par des leaders populistes pour se maintenir au pouvoir et finalement pour faire sombrer leur régime dans des néo-dictatures.
Merci François-Xavier Frelon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, vous êtes l'ancien correspondant de France 24 et RFI à Caracas jusqu'en 2012 et auteur de « Qui veut la peau d'Hugo Chavez » paru en 2012 aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup.